Alexandre Maurus, sermon prononcé pour un jour de scène, texte biblique Matthieu 24, 28, « Car où sera le corps mort, là s'assembleront les aigles. » Salomon, dans ce cantique vraiment céleste, où il nous dépeint en des termes charnels en apparence, mais en effet spirituels et ravissants, les fruits de l'amour de Dieu, dont les plus douces et les plus secrètes communications de Jésus-Christ avec son Église, introduit cette épouse mystique, disant de son époux « Il m'a mené en la salle du festin, et sa livrée que je porte, c'est l'amour. » Ou plutôt, comme il y a dans l'original, « Son enseigne qu'il me déploie, c'est l'amour. » Et cet amour, dit-elle ailleurs, est fort comme la mort. Nous avons participé ce matin au corps du Seigneur dans le sacrement précieux de sa mort, dirais-je, ou de son amour, et chacun de nous peut bien dire à son âme « Il m'a mené dans la salle du festin ». Mais ce soir, nous allons nous assembler encore à l'entour de ce sacré corps, et chacun de nous doit ajouter « Mon âme, ne vois-tu pas à l'enseigne qu'il te déploie du haut de sa croix et du plus haut des cieux même sa mort et son amour. » Les docteurs hébreux nous enseignent que les rois de Juda portaient en leurs étendards un lion, parce que Jacob, en ses derniers propos, avait dit, parlant de Juda, que c'était un jeune lion. C'est là à quoi notre Seigneur peut avoir fait allusion dans l'Apocalypse. « Ne pleure point, dit-il, le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu. » Les Chaldéens avaient autrefois en leur drapeau une colombe d'argent qui représentait leur reine Sémiramis, et quelques-uns ont estimé que c'est à cela que se rapportent ces ailes de pigeon dont le prophète parle au psaume 68. Les Romains étaient reconnus dans les armées par leurs aigles d'or, symbole de l'Empire comme chacun sait, et nous en parlerons tantôt. Mais l'Église de Jésus-Christ n'a point d'autre enseigne ni d'autre bannière que sa croix. Non le lion de Juda, mais l'agneau oxy. Non la colombe des Chaldéens, mais le serpent élevé. Non l'aigle romain, mais le corps mort, la plus haute merveille comme le plus précieux gage qu'est son Église de son amour. C'est là l'enseigne que ce Sauveur choisit d'entre 10 000 déploie aux yeux de toutes les nations. « Quand je serai élevé, disait-il, je tirerai toutes choses après moi, parlant de son élévation en la croix. » Moïse, sa figure, regardait de loin cette enseigne. Lorsque consacrant son autel, il choisit pour devise « L'Éternel est une bannière ». Le psalmiste semble l'avoir entrevue lorsqu'il chante au psaume 20e « Nous triompherons de ta délivrance et marcherons à bannière déployée au nom de notre Dieu. » Ésaïe n'en avait point d'autre devant les yeux lorsqu'il disait « En ces jours, les nations rechercheront la racine d'Isaïe, dressée pour enseigne des peuples, et son séjour ne sera que gloire. » Aujourd'hui même que ce chef glorieux est entré dans la forteresse des cieux pour y arborer son étendard, et pour assembler les élus de toutes langues, tribus et nations, il ne leur déploie dans son évangile que son corps mort. Et par les attraits de ce seul objet, il rallie toutes les troupes de son Église militante pour les assembler en un seul corps d'armée au dernier jour qui sera le jour de son triomphe. Fidèles, ne voulez-vous pas vous y ranger aussi, et surtout aujourd'hui, que vous venez de vous enrôler et de lui prêter serment de fidélité dans l'ordre de sa sacrée milice, car c'est ce que signifie ce mot de « sacrement », si vous ne le saviez. Ne me demandez point où ce sera. Où faut-il donc aller? Où est le rendez-vous? C'est la question que les disciples faisaient à notre Seigneur, et voici la réponse qu'il leur fit, et qu'il fait encore. « Là où est le corps mort, dit-il, là s'assembleront aussi les aigles. » Vous la trouvez peut-être obscure, cette réponse. Et en effet, il faut avouer que l'Écriture sainte n'a rien de plus obscur que cet entretien des disciples avec notre Seigneur sur les signes de son avènement et de la fin du monde. Ce sont des énigmes qui nous font assez voir que nous ne connaissons qu'en partie. Faut-il s'en étonner? C'est un oracle, c'est une prophétie. L'Écriture sainte sera donc obscure, sans doute, quant aux révélations des choses à venir, comme l'Apocalypse, c'est une chandelle qui reluit dans un lieu obscur. Mais que dites-vous de la doctrine que vous avez entendue ce matin? Cette charité, cet amour fraternel qui est si nécessaire, cet abrégé de l'Évangile, ce soleil, était-il obscur, et n'êtes-vous pas tous imprégnés des rayons de sa gloire? Ce soir, la nuée remplit cette maison parce qu'il ne s'agit pas d'un point essentiel comme est la charité, mais d'une réponse que Seigneur a ménagée à ses disciples trop curieux. Cela même ne laisse pas de nous édifier. Car d'un côté, nous y apprenons à être sages à sobriété, pour n'entreprendre jamais de pénétrer dans l'avenir ou de connaître les temps et les saisons que Dieu a mis en sa propre puissance. De l'autre côté, nous admirons la sagesse du Seigneur, qui ne tient point trop de rigueur et qui n'use point d'indulgence, qui dit à ses disciples tout ce qu'il faut qu'ils sachent, qui répond à leurs besoins plutôt qu'à leurs pensées, et qui ne leur témoigne pas moins d'affection en ce qu'il leur cache qu'en ce qu'il leur découvre. Car il ne pouvait pas leur en dire davantage sans les réduire au désespoir et sans leur parler de sa mort prochaine, de son règne spirituel et de sa longue absence. Il pouvait leur dire « Il faut que je meure avant que Jérusalem soit détruite. Quand je reviendrai, ce ne sera pas pour rétablir le royaume d'Israël, et l'on verra couler un grand nombre de siècles avant mon retour. Mais c'eût été les combler de tristesse et les accabler de douleur. Il aime mieux leur donner des signes plus généraux, qui les obligeaient à se tenir sur leur garde, et la manière dont il les propose était capable de les consoler tout d'un temps à la veille de tant de maux. « Ne vous mettez pas, leur dit-il, en peine de ce que vous deviendrez. Là où sera le corps mort, là s'assembleront les aigles. » Pour bien comprendre le sens de ces paroles, il en faut remarquer l'occasion et la reprendre de plus haut, à savoir de la fin du précédent chapitre qui n'en devait faire qu'un avec le nôtre. « Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois t'ai-je voulu rassembler sous mes ailes, comme la poule assemble ses poussins, et vous ne l'avez point voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, c'est-à-dire votre ville et votre temple périront. De là naquirent deux pensées dans le cœur des disciples, l'une de savoir le temps de la destruction, l'autre de savoir ce qu'ils deviendront eux alors. À quoi notre Seigneur répond en leur disant que le temple ne sera détruit qu'après sa mort, et qu'ils ne doivent rien appréhender, parce que s'il ne les rassemble pas alors sous ses ailes, comme la poule ses poussins par la prédication, il les attirera d'une manière plus puissante, par la vertu de son esprit, car là où est le corps mort, là s'assembleront les aigles. N'attendez pas, mes frères, que nous partagions les paroles du texte en deux ou trois parties. Je sais bien que c'est là la coutume, mais nous ne sommes pas obligés à suivre la coutume sans nécessité, comme nous n'aimons pas à nous en départir sans raison. À présent même que nous la quittons pour des causes très justes et très légitimes, nous avons peine à la quitter, craignant de vous choquer. Mais il faut pourtant en avoir le courage, parce que le fruit et l'avantage que nous en tirerons vous le fera tantôt approuver. Nous pourrions bien ici considérer trois points. Le premier, quel est le corps mort? Le second, quels sont ses aigles? Et le troisième, comment se doivent assembler ces aigles alentour de ce corps? C'est là le grand chemin, mais il n'est pas toujours le meilleur, et nous n'allons pas à le condamner, mais nous espérons de la faveur de Dieu que notre sentier nous mènera plus droit encore. Ce n'est pas qu'on ne puisse former de très beaux rapports de Jésus-Christ à un corps mort, qui ne le voit, et des aigles aux fidèles, et de leur assemblée à notre recueil dans les cieux. Tout cela se pouvait étaler sur cette chair avec beaucoup d'éclat et de pompe, si nous cherchions la pompe et l'éclat. Que de curiosités, que de jolies choses pourrions-nous tirer de l'histoire naturelle sur le sujet de ce roi des oiseaux, qui pourrait vous plaire, mais parce qu'elle ne pourrait pas servir à votre édification, et moins encore à l'intelligence de notre texte, nous les écartons. Car nous ne sommes pas ici pour haranguer ou pour philosopher. Pourquoi donc? Pour prêcher. et pour prêcher Christ, et Christ crucifié, tout nu, sans ornement, comme il fut sur la croix, couronné d'épines et non pas de fleurs. Pourquoi embaumer ce corps mort? Pauvre femme, à quoi pensez-vous? Il n'a nul besoin de vos drogues ni de vos poudres de senteur, et si nous avions à les employer, nous les réserverions pour l'application où les pensées sont plus libres. Mais quand il s'agit de découvrir le but du Saint-Esprit et le vrai sens de son Écriture, il s'agit de trop. Il faut y procéder avec religion, sans se donner carrière à droite ni à gauche. Or, nous sommes persuadés que ni notre Seigneur, ni son évangéliste n'ont jamais eu pour but de nous engager à la recherche de ces rapports, mais bien de nous faire embrasser la vérité de cet oracle tout entière. Là où est le corps mort, là s'assembleront les aigles, là où est Christ, là se trouveront les fidèles. Comme la médecine a des remèdes qu'il faut prendre en bolus, c'est-à-dire en grosses pilules, pour en recevoir du soulagement, la science du salut a des doctrines qui, s'il faut ainsi dire, ne doivent pas être prises à part ni brisées par le menu si vous en voulez tirer du profit. Non, il ne faut pas ici comparer terme à terme séparément, mais il faut former une proposition composée de 4 termes, à savoir ce que le corps mort est à l'aigle, Christ est cela même à tout vrai fidèle. Voilà le vrai sens. Il est de notre texte comme d'un verre, si vous le partagez en deux, vous le cassez et le rendez inutile. Car si vous prenez ces termes deux à deux, vous perdez le but, et si vous faites trop exactement, vous n'y trouverez pas votre compte. Je laisse à part que Christ n'est plus un corps mort, il est vivant au siècle des siècles, et qu'il ne fut jamais cadavéreux, n'ayant point senti la corruption. Mais il y a plus, c'est que les aigles sont des oiseaux de rapine, des animaux immondes qu'il n'était pas permis de sacrifier. Et il y a plus encore, c'est que les aigles ne s'assemblent point à l'entour des corps morts et ne les mangent point. Ce sont les vautours, comme nous l'allons faire voir, si bien qu'apprécier trop ces allusions, nous manquerions au plus essentiel. Qu'est-il besoin de cet embarras? Le bon théologien dira comme Scipion, « Je n'aime pas le trop d'exactitude. Disons simplement que partout où sera le corps précieux du Seigneur, un doux et secret instinct de son esprit nous y portera, ni plus ni moins qu'après une bataille qui a jonché la terre de corps morts, le seul instinct de la nature porte ces animaux ravisseurs à se rendre là. Qu'il nous soit permis d'ajouter un exemple qui ne sera pas superflu, parce qu'il est tout à fait convaincant. N'est-il pas dit en l'Évangile que notre Seigneur viendra comme le larron dans la nuit? Quel rapport de celui qui n'a point tenu rapine d'être égal à Dieu à un larron? Quelle ressemblance de la nuit au jour? Car il est certain que le dernier jour de l'illustre avènement du Seigneur sera le plus clair des jours que le soleil ait ramené depuis qu'il a reçu l'empire du jour. Le sens est néanmoins fort clair si nous prenons tous les 4 termes ensemble, que comme le larron vient durant la nuit, lorsque le maître de maison ne l'attend point, notre Seigneur, au dernier jour, viendra dans un temps auquel les hommes, dormant sur leurs péchés, n'attendront rien moins que sa venue. Tout de même ici, quand il n'y aurait aucun rapport, et il y en a pourtant de fort beaux entre Christ et un corps mort, entre les aigles et les fidèles, quand il n'y en aurait non plus qu'entre le Seigneur et un larron, quand il n'y en aurait non plus que de la nuit au jour, la vérité de cet oracle ne laisserait pas d'être inviolable. Ce que la charogne est à l'aigle ou au vautour, son souverain bien, ses délices, son élément, son trésor et sa vie, Christ est cela même à tous les vrais chrétiens, leur souverain bien, leur délice, leur élément, leur trésor et leur vie. Ne divisons donc pas ces paroles, mais afin que notre discours ne soit pas sans ordre, divisons le sens et faisons-en 3. Le premier est littéral et historique, le second surnaturel et prophétique, le troisième spirituel et mystique. Le premier est passé, le second présent, le troisième à venir. Le premier regarde la destruction du temple de Jérusalem, le second se rapporte à la résurrection et à la fin du monde. Le troisième doit embrasser tout cet espace qui coule et qui coulera depuis la destruction du temple et de la ville de Jérusalem jusqu'à la résurrection et à la fin du monde. Mais de ces trois sens, il n'y en a que deux qui nous soient communs avec les disciples de notre Seigneur, car le second n'est que pour nous. Quant à eux, ils ne mettaient point l'entre-deux entre la destruction du temple de Jérusalem et la fin du monde, comme il paraît par la manière dont ils proposent ces deux questions. Et cette erreur leur venait de deux faux préjugés. Le premier, que le monde ne subsistait qu'en faveur de leur temple, si bien qu'ils tenaient pour indubitable que dès que leur temple viendrait à manquer, tout ce grand bâtiment du monde, qui n'avait point d'autre appui que sa subsistance, tomberait d'une même chute. Le second, que le Messie qu'ils attendaient alors allait venir comme un César des Juifs, qui subjuguerait à force d'armes les nations et se rendrait maître du monde. Comment pouvaient-ils craindre, sous un tel défenseur, qu'aucune force étrangère vînt attaquer leur temple ou qu'il périt autrement que dans la ruine générale de tout l'univers? Et notre Seigneur, ne trouvant pas à propos de débrouiller encore cette confusion et de les détromper de cette erreur, quelque grossière qu'elle fût, peut-être de peur qu'ils ne fussent trop contristés d'être si longtemps absents du Seigneur, répond à ces deux diverses questions qu'il lui faisait conjointement, comme si ce n'eût été qu'une seule question, par ce beau mot « Là où est le corps mort, là s'assembleront les aigles », qui contiendra les deux réponses de ces deux questions, mais enchâssées l'une dans l'autre, comme si ce n'était qu'une seule réponse. Nous laissons maintenant à nous qui voyons la destruction de Jérusalem passée et la fin du monde à venir, de quoi nous instruire et nous consoler dès à présent dans un sens spirituel et mystique. Mais parlons premièrement du littéral et de l'historique. Il répond à la première question des disciples qui demandaient « Quand sera-ce ? Quand verra-t-on le temple détruit ?»« Bientôt, bientôt, dit le Seigneur. » Dès que je serai mort, incontinent les Romains viendront avec leurs aigles victorieux dans leurs étendards, ils assiégeront Jérusalem et la désoleront. Vous disiez, malheureux, les Romains viendront si nous laissons vivre cet homme et détruiront la ville et la nation. Et je vous dis, moi, qui suis cet homme, que les Romains viendront tout au contraire avec leurs aigles et leurs armées pour détruire la ville et la nation, dès que vous m'aurez fait mourir. Le destructeur viendra sur ses aigles abominables, car c'est ainsi qu'en parlait Daniel au chapitre 9 de ses révélations. Et par cette abomination de la désolation citée par saint Matthieu, saint Luc enseigne clairement qu'il faut entendre l'armée des Romains, qui s'appelle non seulement désolation parce qu'elle devait ruiner de fond en comble la ville de Jérusalem, mais abomination parce que les aigles de leur drapeau devaient être portés dans le temple, comme Pilate les y fit porter au rapport de Théodorée. Profanation que les Juifs avaient en horreur, témoin cet aigle d'or qu'Hérode fit poser sur la porte du temple, au récit de Joseph, mais il n'y fut pas plus tôt que les Juifs conjurèrent de la noter, et quelques-uns de leurs jeunes l'abattirent à grands coups de hache au péril de leur vie, sachant bien qu'ils la perdraient. Comme en effet ils la perdirent et furent cruellement punis de cet attentat contre les dieux des légions. Car c'est ainsi que les Romains appelaient les divinités de leur camp les aigles de leurs étendards. Quelquefois même, par adresse, ils joignirent à ces aigles l'image de leur empereur et de leur dieu, et sous ombre d'enjoindre le respect aux armes de l'Empire, ils forçaient d'adorer l'idole en même temps. Mais les Juifs ne trouvèrent jamais rien de plus abominable que l'adoration des images, et aujourd'hui encore, il n'y a rien qui les rebute tant de la religion chrétienne. C'est pourquoi Titus, assiégeant Jérusalem fort peu de temps après la mort de Christ, ou par ostentation et par caprice, ou pour leur faire dépit, rangea ses aigles et joignit ses étendards en un tel ordre qu'il forma comme une espèce de temple à l'opposite de celui de Jérusalem, comme pour opposer temple à temple, parce que les Juifs ne faisaient trop fait que de leur temple de l'Éternel. Ce fut cette armée, ce camp et ces aigles que notre Seigneur employa comme des verges de sa fureur sur cette ville ingrate où son corps avait été mis à mort, pour y venger cette mort et pour forcer les Juifs de reconnaître la vanité de leurs pensées. Si nous le laissons vivre, les Romains viendront. Et la vérité de son oracle, là où vous m'aurez fait mourir, là les aigles s'assembleront par mon ordre secret, mais fatal à votre nation pour vous punir. C'est pour cette raison que notre Seigneur n'a pas dit « Où est le corps mort, là s'assembleront les vautours », comme il eût fallu dire, suivant le proverbe commun des Latins, des Grecs et des Hébreux, car il se trouve dans toutes ces langues, et même au chapitre 39 du livre de Job, où le terme hébreu, aussi bien que l'arabe, peut également signifier l'un et l'autre de ces animaux. Mais notre Seigneur est le premier qui a détourné adroitement ce dire commun aux aigles, ou du moins qui ne convenait qu'à certaines espèces d'aigles, l'attribuant aux aigles en général pour en former cette belle allusion au drapeau des Romains et pour en augmenter la merveille. « Les aigles même, dit-il, contre leur nature, s'assembleront à l'entour du corps mort. » J'ai dit « contre leur nature », car les anciens ne disent rien de semblable de l'aigle. Ils disent au contraire qu'ils l'appellent royal, parce qu'ils ne s'abaissent pas à manger la chair des corps morts. Mais nos aigles mystiques ne s'abaissent pas non plus pour manger leur corps mort, mais ils s'élèvent et s'envolent au plus haut des cieux, maintenant sur les ailes de leur foi et sur les nuées du ciel au dernier jour. C'est à ce dernier jour qu'il nous faut rapporter le second sens que nous avons appelé surnaturel et prophétique, parce qu'il regardait à l'avenir, à savoir la résurrection et la fin du monde, satisfaisant à la seconde question que les disciples faisaient sans y penser. Car ils n'en croyaient faire qu'une seule, comme nous l'avons dit, parce qu'ils se figuraient que Jérusalem et le monde ne devaient finir qu'en un même temps. Aussi notre Seigneur vide les deux questions par cette seule sentence, où il en renfermait, s'il faut ainsi dire, deux sens jumeaux, dont l'un se rapporte à la destruction du temple, comme nous l'avons vu, et l'autre regarde la fin du monde, comme il paraît non seulement par ses paroles qui précèdent, comme l'éclair sort d'Orion et paraît jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme, et aussi par celles qui suivent, le soleil s'obscurcira, les étoiles tomberont du ciel, le signe du Fils de l'homme apparaîtra, il enverra ses anges pour rassembler les élus des quatre vents, depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre. Saint Luc est encore plus clair sur ce sujet, car après que notre Seigneur a dit qu'au jour auquel le Fils de l'homme apparaîtrait, deux seront dans un même lit, l'un sera pris et l'autre laissé, deux femmes moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée, les disciples demandent « Où, Seigneur, où seras-tu? Où irons-nous ? » Et notre Seigneur leur répond « Là où sera le corps mort, là s'assembleront aussi les aigles, comme s'il leur disait « Vous êtes trop curieux, vous ne savez ce que vous dites, de quoi vous mettez-vous en peine, je viendrai au-devant de vous, et vous viendrez au-devant de moi, et vous serez ravis avec moi dans les cieux. Ne vous enverrai-je pas mes anges pour vous assembler ? Mais vous ne vous ferez pas tirer, à peine les attendrez-vous, et je ne vous aurai pas plus tôt fait signe que votre veneur vous sollicitera de venir à moi, et de voler à moi, et mon esprit vous portera plus vite que si vous aviez des ailes d'aigle. Je paraîtrai comme un éclair, mais mes aigles ne seront pas éblouis par cet éclair et par la splendeur de ma gloire. Ils se jetteront sur mon corps comme un corps perdu et se mêleront parmi les anges, ravis comme eux à l'entour de mon trône. Mais où, Seigneur, où seras-tu? Où serons-nous? Peut-être que nous ne te trouverons pas, à point nommé, dans la subite confusion de cette horrible catastrophe. Hélas, que deviendrons-nous? « Quelque part que je sois, vous y viendrez, et vous serez avec moi. Que cela vous suffise, dit le Seigneur. Quand vous seriez de fer, je serai votre aimant. Mais vous serez des aigles, et je serai votre corps mort. Ni le soleil éteint, ni la lune noire, ni la chute des étoiles, ni l'ébranlement des vertus des cieux, ni la voix des archanges, ni le son bruyant des trompettes, ni les grands cris de toutes les lignées de la terre en deuil, ni les chariots des nuées, ni la confusion de tous les éléments n'empêcheront point que vous ne trouviez celui que vous cherchez, votre crucifié, l'objet de votre amour. Comme le désordre et la déroute d'une grande armée n'empêchent pas que l'aigle ne trouve son corps mort, sans autre guide que son appétit, sa faim et sa gloutonnerie. Quelqu'un dira, Ne ressusciterons-nous pas tous, et ne sortirons-nous pas tous de nos tombeaux avec une jeunesse toute renouvelée, comme autant d'aigles et méchants et bons? Que nous sert ce corps mort du Fils de Dieu, si ses enfants meurent de même que ses ennemis, et si ses ennemis ressuscitent de même que ses enfants? Pourquoi donc, Seigneur, es-tu mort? Pourquoi ressusciter, si nous ne sommes délivrés de la mort non plus que les autres, et si les autres ressuscitent ni plus ni moins que nous? Voici la différence. La mort nous dévore tous, mais elle nous dévore, nous, comme la baleine dévora Jonas pour le porter sur le rivage. Nous avons tous à passer par la mort, c'est notre mer rouge, mais elle se fend devant Israël, qui passe néanmoins, car il n'y a point d'autre passage, mais passe à pied sec et s'en va chanter Alléluia sur l'autre bord. Au lieu que Pharaon et tout son train y demeurèrent engloutis, la mort est notre commune prison, mais dans cette prison, il y a des criminels condamnés qui seront conduits au supplice dès que la prison s'ouvrira. Et dans la même prison, il y a des prisonniers d'espérance, comme dit Zacharie. Ils sont là comme des aigles dans leur cage ou dans leur nid, au lieu que les autres, ils sont comme des taupes et des serpents dans leur tanière. J'avoue que tous les hommes auront à comparaître devant le trône judiciaire du Fils de Dieu, et que pour cet effet, ils doivent tous ressusciter. Mais les uns à mort, les autres à vie, les uns pour retomber plus bas que le sépulcre, les autres pour monter avec Christ dans les cieux. Les uns ressusciteront par une force coactive qui dépend de l'autorité du souverain juge du monde, et les autres par une attraction intérieure qui dépend de la vertu et de l'influence de l'esprit vivifiant du chef. Les uns ressemblent à un homme qui s'est noyé, les autres à un homme qui nage. Il faudra tirer les uns par force de leur tombeau, comme on ne peut tirer de l'eau le corps de cet homme qui s'est noyé qu'avec l'effort des crochets et des crampons, mais les fidèles en sortiront volontairement par l'impulsion et par les mouvements de l'esprit habitant en eux, comme les membres de celui qui nage et qui a la tête hors de l'eau, suivent et viennent au-dessus sans effort et sans violence. Les uns enfin se feront traîner, et les fidèles se laisseront conduire. Que dis-je qu'ils se laisseront conduire? Ils y voleront, car là où sera le corps mort, là s'assembleront les aigles. Mais en attendant ce bonheur, qui n'est peut-être pas si proche de nous que ces pauvres disciples s'imaginaient qu'il était déjà de leur temps, prenons le troisième sens, qui est spirituel et mystique, qui ne regarde ni la destruction de Jérusalem, ni la fin du monde, mais le mystère de notre union avec Jésus-Christ, qui ne dépend point du temps et qui n'est point attaché au lieu. En tout temps, en tout lieu, malgré l'éloignement et la longue absence, Christ habite dans nos cœurs par la foi, et nous habitons avec lui dans les cieux par l'Esprit. Et non seulement il est à nous, et nous à lui, mais il est en nous, et nous en lui, car nous mangeons sa chair, et nous buvons son sang, et là où est le corps mort, là s'assemblent aussi les aigles. Qu'on ne me dise point « le voici, le voilà », car il m'a bien prédit qu'on me dirait cela, mais il m'a défendu de le croire. Je sais où il se repose sur le midi, je ne demande pas qu'on me le montre, il n'est question que d'y aller. On n'y va pas à pied ni à cheval, il faut avoir des ailes. Il ne change pas de condition, mais il me faut changer la mienne. Il faut que je me convertisse, il faut que je me transsubstantie, moi, en un aigle. Et il n'est pas question de faire son corps, il est parfait. Il ne s'agit que de faire d'un homme un aigle. Je suis froid et pesant, il faut que je devienne prompt, plein de zèle et d'ardeur. Vous voulez me la porter chez moi, mais il veut que je me transporte chez lui. Il ne dit pas « attendez », mais il dit « venez à moi ». Quel besoin aurais-je de devenir aigle s'il était ici-bas? Il y fut autrefois, et nous y visita, et nous devons lui rendre la visite dans sa maison. C'est notre tour. Il est vrai que l'aigle descend de l'air, qui est son ciel, et fond sur la terre où il voit un corps mort. Mais si ce corps était porté par quelque vertu secrète sur la croupe d'une montagne, doutez-vous que l'aigle ne l'y suivit jusque dans les nuées et tout au plus haut qu'il le pourrait? Notre corps mort était autrefois ici-bas. Il y est né, il y a vécu, il y est mort. Descendons par tous ces degrés, mais pourquoi ne voulez-vous pas remonter avec lui par sa résurrection et par son ascension jusqu'au plus haut des cieux? Il n'y est assis, il n'en bouge, je m'y veux asseoir et m'y reposer avec lui. J'y veux faire mon nid. Tes autels, mon Dieu et mon roi. Le ciel est mon autel, et la dextre de Dieu ma chapelle. C'est le saint siège de mon sauveur, c'est là qu'est mon hostie, c'est là qu'est son vrai corps. Il emporta notre chair dans le ciel, et il nous envoie son esprit sur la terre comme en récompense, par un heureux échange, et pour nous consoler du défaut et de l'absence de son corps. Et que fait cet esprit? Il nous transforme en aigle, et nous donne des ailes pour aller au ciel, et pour nous y repaître de ce corps mort, sans quoi nous mourrions de faim. Dieu nous veut bien donner sa manne, mais il ne veut pas la faire pleuvoir. Il faut l'aller puiser, car elle est désormais cachée dans le sanctuaire des cieux. Mais cela est bien haut, oui, pour ceux qui n'ont pas le moyen d'y atteindre, mais non pour ceux qui volent. Je fonde ce sens et cette interprétation sur tout ce qui précède, qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre, des pestes, des famines, des tremblements de terre, qu'il s'élèvera des persécuteurs qui tourmenteront et qui tueront les fidèles, qu'il y aura ensuite de faux docteurs qui séduiront même les élus s'il était possible, qu'on verra des apostats et des faux prophètes et de faux Christ. Parmi tant de désordres et de confusions, que deviendra l'Église? Que deviendront les enfants de Dieu dispersés, exilés et vagabonds? Où se tiendra leur assemblée? Dans une haute retraite, dans la fente du rocher, dans un fort imprenable, voici le bouclier et l'aigle contre toutes ces pestes et tous ces fléaux. Là où est le corps mort, là s'assembleront aussi les aigles. Que les rois armés contre les rois couvrent toute la face de la terre comme d'un déluge de sang. Que les persécuteurs et les tyrans mènent tous les jours nos brebis à la boucherie. Nous le supposons, car quel sujet avons-nous de nous plaindre, ni même de craindre ou d'en parler autrement que par supposition, sous le meilleur des rois, qui nous environne des effets de sa protection et de sa clémence, qui ne verra jamais que le sang de ses ennemis, et cela même à regret, et qui, lassé de ses victoires, promet à tous ses peuples des jours d'alcyon. Béni sois-tu, grand roi, jeune César, dirais-je, ou jeune Salomon, vraiment donné de Dieu et de tous ceux qui, sous toi, sont assemblés pour une œuvre si belle et si sainte. Que de bénédictions t'attendent en Sion, que de cantiques, que de louanges dans les terres les plus étranges vont couronner ton chef d'un nouveau diadème qui portera ta gloire au-dessus de celle de tes aïeux. Le grand, le juste sont des titres magnifiques, et nous pensions qu'il n'en était point de plus glorieux, mais le pacifique l'emporte lui seul sur tous. Béni sois-tu, grand roi, et béni soient les désirs de ton cœur. Supposez donc ce qui ne peut être, ou supposez que Dieu nous eût fait naître sous les Nérons et les Dioclétiens, et non pas sous un Auguste avec un Mécénas, mais sous un Tibère avec un Séjant, en ces malheureux temps de l'Église, où les 10 cruelles persécutions passent flot à flot sur son dos. Quand on rendait les pauvres chrétiens coupables de toutes les calamités publiques et de ce que le Tibre se débordait et de ce que le Nil ne se débordait pas, et des inondations et des sécheresses, et des pestes et des guerres, des famines et des incendies. Quand on disait pour apaiser le peuple, l'empereur ayant fait brûler par caprice un quartier de Rome, les chrétiens au lion, ils en sont les auteurs. Quand on épuisait toute l'industrie pour inventer de nouveaux tourments, quand les tortures, les tenailles, les roues, les glaives et les flammes étaient pour eux des supplices trop doux, quand après les avoir disloqués et rompus, on réparait leurs forces en les traitant pour les rendre capables d'une peine réitérée, quand on les produisait sur les amphithéâtres, quand on les exposait à la furie du taureau excité par la faim de plusieurs jours, quand on les couvrait des peaux des bêtes sauvages pour les faire dévorer aux chiens, quand on pliait et courbait les branches de divers arbres où l'on attachait leurs pieds afin qu'en les laissant aller tout d'un coup ils fussent cruellement mis en pièces et en éclats, quand on les écorchait tout vif, quand on leur donnait la chemise ardente, quand on plantait leur corps enduit de poix et de cire pour servir de flambeau aux passants dans les carrefours et dans les rues. Je suppose qu'il nous fallut voir tout cela. Faudrait-il pour tout cela s'assembler, pour se soulever et prendre les armes et sonner le tocsin pour se cantonner? Ces premiers chrétiens, qui valaient mieux que nous et qui le pouvaient faire, l'ont-ils jamais fait? Les véritables armes de l'Église n'ont jamais été que les larmes et les soupirs. Jamais elle ne fit bouclier que de patience. Sa voix, comme celle de la colombe, a toujours été le gémissement. Ce n'est pas qu'elle ne puisse implorer du secours et s'enrôler et choisir un chef et se retirer dans une citadelle et lui faire arborer l'étendard. Mais où ? Là où est le corps mort, le secours du ciel et la bannière de Jésus-Christ. C'est là que se doivent assembler nos aigles. Et quant aux séducteurs qui viennent ensuite des persécuteurs, car Satan a coutume, après qu'il a rugi en lion, de siffler en serpent, il ne les faut craindre non plus, puisque nous avons en ce divin oracle un remède assuré contre tout leur poison. Premièrement, ils vous diront que Christ est en terre et qu'il y est venu, qu'il y vient tous les jours, qu'il est ici, qu'il est là, qu'il passe dans la rue. Mais que disait le bon pasteur ? Voici, je vous l'ai prédit, s'ils vous disent « il est au désert », n'y sortez point. Il est dans les chambres, ne le croyez point. Que faut-il donc faire, Seigneur ? Là où est le corps mort, là se doivent assembler aussi les aigles, et nous le faisons par ta grâce. Mais on ne veut pas que nous le fassions. Sous ombre que tu as dit autrefois, ceci est mon corps, tu l'as dit, et nous le voyons. Mais quel corps ? Mon corps rompu. Nous le voyons comme il l'a dit. C'est le corps mort que je cherchais. Faites-moi voir qu'il est rompu et mort et crucifié dans le ciboire. Je manierai l'y recevoir. Mais celui qui m'a prédit que vous le diriez m'a défendu de le croire. S'ils vous disent qu'il est là, dit-il, ne le croyez point. On dira que notre Seigneur parle ici non pas de notre temps, mais de la destruction de Jérusalem et de la fin du monde. Il est vrai, mais c'est l'une des choses qui me persuade que nous sommes au dernier temps et que nous approchons de la fin du monde, puisque nous voyons accompli en outre ce signe de l'avènement du Seigneur. Et d'ailleurs, quelle apparence que notre Seigneur eût ordonné de ne croire point ceux qui, sur le point de la destruction de Jérusalem, ou sur le point de la fin du monde, diraient que le Christ est ici ou qu'il est là, sans nous avertir que durant tout le reste du temps, de 1000 ou de 2000 ans, quand on nous dirait que Christ est dans les déserts ou dans les chambres, ou ici ou là, nous serions obligés de le croire. Posons le cas que le monde vint à finir aujourd'hui. Du moins, aujourd'hui, je pourrais combattre votre erreur par ces mots, puisque vous reconnaissez que notre Seigneur, parlant de la fin du monde, dit « Alors, s'ils vous disent que Christ est ici ou qu'il est là, ne le croyez point. Mais en quelque temps qu'on me le dise, je me souviendrai toujours de la défense du Seigneur. Voici, dit-il, je vous l'ai prédit, s'ils vous le disent, ne le croyez point. Et surtout, puisque notre Seigneur n'a pas dit, il ne faut pas croire ceux qui vous diront qu'il est ici ou qu'il est là d'une façon visible dans les déserts et dans les chambres. Car je ne me trouverai que d'une manière invisible dans mes églises et sur mes autels. Il a dit au contraire, ne croyez point ceux qui vous diront que je suis caché dans les déserts ou dans le ciboire, car je viendrai visiblement, comme un éclair, sans que personne n'en puisse douter. Il ne vous renvoie pas enfin des déserts et des chambres à la chapelle et à la dextre du prêtre qui consacre. Il ne dit pas que c'est là que vous me trouverez. Mais où donc ? Au ciel, à la dextre de Dieu, là où est le corps mort. Vous devez vous assembler là. J'avoue qu'il parle de ceux qui disent « Je suis le Christ », des faux messies, qui se sont élevés à son premier avènement et qui s'élèveront au second. Mais il parle aussi de ces autres gens, qui ne disant pas qu'ils sont eux-mêmes le Christ, disent néanmoins qu'il est ici ou là, sur la terre, car le terme grec que nous traduisons par « chambre » signifie des lieux où l'on garde à manger et répond à celui de « ciboire ». Ce qui est fort considérable, car où est l'apparence qu'un homme, qui se dirait faussement le Messie, se tint renfermé dans de semblables lieux ? Au moins ne faudrait-il qu'une chambre pour un homme seul, mais ils disent « il est dans les chambres ». Il n'est qu'un, néanmoins, il se trouve en plusieurs chambres tout ensemble, ce qui est justement ce qu'on dit aujourd'hui. Arrêtons-nous surtout à l'avis que notre Seigneur donne à ses disciples, qui est en général et qui concerne tous ceux qui le cherchent encore sur la terre. Car il nous rappelle tous au ciel, là où est le corps mort. C'est ainsi que l'ont entendu les saints pères et les saints anges et les saints apôtres et toutes les anciennes églises. Cette table, disait-il, et la table des aigles, et non pas des corneilles. Et il nous appelle aigles, parce qu'il faut que celui-là soit haut élevé qui s'approche de ce corps, qu'il ne soit point tiré en bas, ni rampant, et qu'il vise en haut continuellement pour regarder le soleil de justice. Il nous appelle aigle afin que nous montions au ciel, soutenus par les ailes de l'esprit. « Si tu veux voir mon aile, disait-il, j'en ai une plus légère que celle d'un aigle, qui vole non jusqu'à 10 ou 20 stades, ni jusqu'au ciel, mais par-dessus le ciel même, où Jésus-Christ est assis à la dextre de Dieu. Gloire soit à Dieu dans les lieux très hauts, nous disent les anges et les saints apôtres, si vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses qui sont en haut, pensez aux choses qui sont en haut. Et les anciennes églises, comme il paraît par cette formule très ancienne dans toutes les liturgies, les cœurs en haut, et notre Seigneur même, quand je serai élevé, dit-il, j'attirerai toutes choses après moi. Mais il semble qu'on le veuille tirer ici-bas, non pas pour l'ôter du ciel, mais pour nous dispenser d'aller si haut et si loin. En effet, si le corps de Jésus-Christ est sur la terre, pourquoi, saint Paul, me défendez-vous de penser aux choses qui sont sur la terre? Selon vous, il faudrait que le Seigneur eût dit « Là où seront les aigles, là se trouvera le corps mort. Là où est mon trésor, là sera mon cœur. Si mon Sauveur est là sur cet autel, qui me blâmera d'y renfermer mon cœur et toute ma pensée? Car si le corps est ici-bas et que mon cœur monte là-haut, ils ne se rencontreront pas. Il est au ciel, mais il n'est qu'en un lieu du ciel. Pourquoi l'aller chercher si loin et si haut, puisque nous l'avons si proche de nous, dessus 1000 autels, en une infinité de lieux de la terre? On répond qu'il faut distinguer la hauteur des choses et la hauteur des lieux, et qu'on ne laisse pas de former des pensées élevées, nobles, des objets qui ne sont pas en de hauts lieux. Cette distinction est très bonne quand nous pensons à l'Église militante, à la parole, au sacrement. Nous pensons à des choses qui sont ici-bas et même qui ne seront jamais là-haut. Et cependant, ce sont des choses très hautes et divines. Mais elle n'est nullement à propos car il s'agit ici proprement des lieux. Les disciples demandent où, c'est-à-dire en quel lieu. Et notre Seigneur répond là, c'est-à-dire en ce lieu-là où sera le corps mort. Les prophètes disent qu'il est ici et qu'il est là, et notre Seigneur dit qu'il faut que les aigles s'assemblent là où est le corps mort. Saint Paul dit hautement qu'il faut penser aux choses qui sont en haut. Là où Jésus-Christ est assis à la dextre de Dieu, c'est sa situation, son siège et son propre lieu. Quelqu'un dira peut-être « Où est ce corps mort? Est-il dans le ciel ?»« J'ai été mort, disait-il, mais je suis vivant au siècle des siècles. » Il n'a été mort que 3 jours, non pas même 3 jours entiers. Pourquoi donc chercher entre les morts celui qui est vivant? Pourquoi ternir de ce funeste nom le lustre de sa gloire? Il est certain qu'il ne faut point trop presser la similitude, car il suffit de dire que Jésus-Christ, mort sur la croix et vivant dans le ciel, soit mon trésor et ma vie, comme un corps mort est le trésor et la vie de l'aigle. Mais il y a plus, c'est que ce corps mort, qui a été mort dans le ciel même où il est vivant et glorieux, doit être considéré toujours comme mort. Si c'est un paradoxe, il est orthodoxe. C'est ce que nous enseigne saint Jean, quand il met l'agneau sur le trône et quand il ajoute que cet agneau se tient au milieu d'eux comme immolé. Apocalypse chapitre 5 verset 6. C'est ce que nous enseigne saint Paul quand il dit que Christ, avec son propre sang, est entré dans les cieux et que nous avons liberté d'entrer au lieu saint par le sang de Jésus, par le chemin qu'il nous a dédié, toujours frais et vivant. Que pensez-vous que soit l'intercession du Fils de Dieu? C'est l'oblation perpétuelle du sacrifice de la croix. Non seulement ses cicatrices, mais le fruit et la vigueur incorruptible ou inépuisable de sa mort et de sa passion, qui fait le plus doux parfum de cet éternel sanctuaire. Lorsqu'il se présente devant Dieu pour nous, il ne lui montre pas sa couronne d'or, ni sa ceinture à l'endroit des mamelles, ni son sceptre royal, ni son trône d'ivoire, ni les flammes de feu qui sortent de ses yeux, ni les étoiles qu'il porte dans sa main, ni son épée à deux tranchants. Que lui montre-t-il donc? Ses plaies et son sang. Il n'a rien de plus précieux. La mort de Jésus-Christ est le plus grand effet et le plus illustre témoignage qu'il nous ait donné de son amour. Ô âme fidèle, voulez-vous voir votre Sauveur vous aimant plus que sa propre vie? Voulez-vous découvrir le fond de son amour? Ne le regardez point parmi les bergers en sa naissance, ni en sa crèche. Ne le regardez point en son ciel parmi les rayons de sa gloire, mais regardez-le sur la croix et dans les horreurs de la mort. Ne frémissez point, chrétien, de le voir tout couvert de sang. que ni ses clous, ni ses épines, ni cette épouvantable voix qui fit fendre les rochers et trembler la terre et pâlir le soleil d'horreur ne vous en fasse point détourner les yeux. Car c'est sur ce bois infâme qu'il porta nos péchés en son corps, et c'est de la source de ses plaies que découlent toutes vos bénédictions. Qu'il soit donc toujours appelé le crucifié, que son corps mort soit l'objet de toutes nos pensées, que sa mort précieuse soit l'éternel sujet de nos louanges, puisque c'est en sa mort que consiste le fond et le miracle de son amour. Aussi, saint Paul, qu'il avait vu dans le paradis, après l'avoir regardé de tous les côtés, ne le trouve point si désirable par aucun endroit, il le veut mort. Pourquoi cela? Parce qu'il en a faim et soif, et qu'en aucun autre état il ne peut pas bien s'en repaître. Car, comme vous voyez que les aigles ne mangent pas les hommes vivants, ils ne fondent que sur les corps morts, ainsi les fidèles admirent Jésus-Christ ressuscitant, l'adorent glorieux, mais ils ne le mangent qu'en étant qu'il est mort. Ils ne s'en nourrissent par la foi qu'en tant qu'il a été crucifié pour eux. Tel donc qu'il offre son corps à son Père céleste pour un argument perpétuel de paix et de propitiation, tels ces aigles mystiques le contemplent, le désirent, l'embrassent, le mangent lorsqu'ils le tiennent entre les serres de leur foi, s'enivrant du fruit de sa mort et de son amour. Mais où? Dans les cieux. Car où pensez-vous être? Ne sommes-nous pas vivifiés, ressuscités, assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ? Ne sommes-nous pas venus à la Sion céleste, aux milliers d'anges, à l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont écrits aux cieux, et à Jésus, médiateur de la nouvelle alliance, dont le sang crie de meilleures choses que le sang d'Abel? Que crie ce sang? Il crie dans le ciel, grâce et bénédiction. Il crie à ses aigles, venez à moi. Il crie à son Père, qu'il soit avec moi, car là où est le corps mort, là s'assembleront aussi les aigles. Sous l'ancienne loi, celui qui avait touché à un corps ou qui était seulement entré sous une tente où il y avait un corps mort était exclu de la synagogue. Mais il n'en est pas ainsi sous l'Évangile. Il faut avoir touché à un corps mort. Il faut l'avoir embrassé par la foi et être uni à lui inséparablement pour être introduit dans le sanctuaire de l'Église chrétienne. Sous l'ancienne loi, les aigles étaient des animaux immondes, qu'il n'était pas permis de présenter à Dieu en sacrifice. Mais sous le Nouveau Testament, les choses ont changé de face. Depuis que saint Pierre vit descendre du ciel un linceul rempli de toutes sortes d'animaux, il est permis d'en manger de toutes sortes, et il n'y en a point qui soit impur ou immonde. Les serpents même avec leur poison, les aigles avec leur gloutonnerie peuvent servir à l'Église d'emblème et de symbole pour lui représenter ses enfants. Au reste, on pourrait rapporter plusieurs raisons pour lesquelles les fidèles sont comparés à des aigles. J'entends les raisons qui sont fondées dans l'Écriture, car de rapporter ici tout ce que les naturalistes disent à ce propos, nous n'aurions jamais fait. L'aigle, disent-ils, est carnassier, mais il aime particulièrement la chair des agneaux. L'aigle fait une guerre mortelle au serpent et plante son nid en des lieux fort élevés et inaccessibles, et quand son bec est devenu trop long, il a l'industrie de le casser contre un rocher et de s'en défaire par ce moyen. Tout cela se pourrait appliquer aux fidèles qui se nourrissent de la chair de l'agneau sans macule, qui a toujours guerre contre le serpent ancien, qui établit son repos et sa forteresse en Dieu seul et qui dépouille le vieil homme. Mais il faut s'arrêter sur la force de sa vue, sur l'acuité de son odorat, sur la rapidité de son vol et sur l'avidité de son goût. Voilà quel est le triple sens de ce proverbe mystérieux. Salomon en a fait un livre, mais il y a ici plus que Salomon. Et pour en comprendre d'autant mieux la merveille, considérons les fruits qui nous en reviennent. Il est bon à tout, contre la persécution, contre l'erreur, contre le scandale, contre l'ambition, contre la mort, et nous en pouvons dire ce que Salomon disait de l'argent, qu'il répond à tout. Car premièrement, que peut la fureur des tyrans, contre une âme ainsi remparée? Qu'on me charge de faire, mon âme est libre et vole comme un aigle à la dextre de Dieu. Qu'on me fasse mourir, on ne le saurait faire sans me délivrer de prison et sans me séparer du monde, qui est un grand bien, et sans m'unir à Dieu, qui est un plus grand bien, et à mon corps mort, source et trésor de vie. Condamner un chrétien à la mort pour le bien punir, c'est vouloir noyer un poisson en le jetant dans l'eau, car cette mort est un fleuve d'eau vive qui l'amène à son Dieu, et à son corps mort, son élément et son aliment, et ses plus chères délices. Ainsi les martyrs autrefois, à mesure que leurs pauvres membres craquaient dessus la roue, ou pétillaient dans les flammes, chantaient sur l'échafaud ou sur le bûcher, voyant les cieux ouverts et leur aigle prêt à voler vers le Fils de l'homme à la dextre de Dieu. Que peut l'erreur du monde contre l'Esprit de Dieu? Quelle est la vraie Église? Quelle est la vraie religion? Pourquoi tant de disputes et tant de combats? L'Église est une assemblée. La vraie Église est une assemblée d'aigles. La religion chrétienne a pour enseigne le corps de Jésus-Christ, mais la vraie religion est celle du corps mort. Notre Église est une assemblée d'aigles, mais en la vôtre, vous ajoutez aux aigles les corbeaux, et vous voulez que tout y entre jusqu'aux hypocrites et aux réprouvés. Ne prenons que des aigles dans l'Église, loin d'ici les chouettes et les serpents. Ne prenons que le corps mort dans la religion, et nous voilà d'accord. Mais vous ajoutez à nos aigles autant d'animaux qu'il y en avait autrefois dans l'arche, et vous ajoutez à notre corps mort plusieurs des créatures qui sont sur la terre et toutes celles qui sont dans le ciel. Vous vous renvoyez aux saints qui n'ont point de corps et aux anges qui ne sont pas morts et qui sont des esprits vivants et immortels et à la sainte et bienheureuse Vierge que vous dites n'être pas morte et à saint Paul et à saint Pierre qui sont morts, mais ont-ils été crucifiés pour nous? L'aigle se contente de son corps mort. C'est l'unique, sans addition, tout nu, tout seul, comme il fut sur la croix, car il ne dit pas aussi là où seront les corps morts. Mais le corps mort, un seul corps mort, suffit pour tous les aigles. Ne pensez pas que vos richesses et vos grandeurs, vos dignités, vos honneurs, vos exemptions de charges et vos avantages mondains, votre or et votre argent, vos rentes et vos bénéfices, vos mitres et vos crosses, puissent tenter un vrai chrétien. Ce sont des moyens et des biens, mais ce n'est pas le but, ce n'est pas son souverain bien. C'est Jésus-Christ, c'est le corps mort qui seul répond à tous ses désirs et qui fait sa béatitude. Il me semble que je vois un aigle qui vient après une bataille et qui se penche sur un corps mort au milieu du bagage, d'une riche dépouille, d'un grand butin, où le soldat s'attache parmi les épées et les harnais et les plumes et les baudriers et l'or et l'argent. Il quitte tout cela pour le corps mort. Jésus-Christ met un gain à vivre et à mourir. Dit l'aigle ravi au troisième ciel. Comment gain à vivre? Gain à vivre pour saint Paul, parce que sa vie est cachée là-haut avec Jésus-Christ en Dieu. Là où est le corps mort, là sont vivants les aigles, et là vivait saint Paul, foulant à ses pieds les biens et les honneurs, et faisant litière de tous les avantages du monde, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, son Sauveur. Et n'estimant tout le reste non plus que du fumier, et que des plus sales excréments du monde. Hors de la bonne odeur de son Christ, s'il faut ainsi dire, tout le reste lui pue. Et pourquoi ne le faut-il pas dire, puisqu'il le dit ainsi lui-même? Il en détourne la vue et lui tourne le dos. Il ne regarde qu'à son Jésus-Christ crucifié. N'a-t-il pas raison? À qui regarderait-il? Il m'a aimé, dit-il, il s'est donné soi-même pour moi. L'un des meilleurs historiens rapporte que Tigrane, ayant été fait prisonnier avec sa femme par Cérès, ce roi lui demanda ce qu'il voulait donner pour acheter sa femme. Tigrane répondit sans balancer qu'il donnerait volontiers sa propre vie pour la racheter. Le roi, touché de cette réponse, les mit tous les deux en liberté. Mais comme ils s'en allaient tous deux, le mari dit en chemin à sa femme, « Que dites-vous de ce bon roi ?»« Moi, dit-elle, je ne l'ai point vu. » Et comme il s'étonnait de cette réponse, « Non, ajouta-t-elle, j'avais tous mes yeux collés et tous mes regards attachés à celui seul qui présentait sa vie pour ma rançon. Ô âme fidèle, soyez saintement jalouse d'une si belle action, et quand tous les royaumes du monde, avec toute leur gloire, vous passerez devant les yeux, ne les regardez pas seulement, ne regardez qu'à votre corps mort, à cet époux qui n'a pas seulement offert, mais qui a donné volontairement et en effet sa vie pour votre rédemption. » Vous, aigle légitime, ne baissez jamais la vue devant votre soleil. Mais hélas, il n'y a que trop d'aigles bâtards et de faux chrétiens qui prennent à honte ce corps mort. Il n'y a en lui à le voir ni forme, disent-ils, ni apparence, ni rien qui fasse que nous le désirions. Qu'est-ce que ton bien-aimé, ô la plus belle d'entre les femmes, qu'est-ce que ton bien-aimé que tu nous as ainsi adjuré? Il est scandale aux juifs et folie aux grecs, mais il est folie et scandale tout ensemble à plusieurs chrétiens. Mais ce qui s'en scandalise nous édifie doublement, parce qu'il a été prédit dès sa naissance que ce serait un signe auquel on contredirait, et parce qu'il le faut nécessairement. Car Jésus-Christ et le monde ne peuvent pas avoir la même odeur. Les fidèles et les autres hommes ne peuvent pas avoir le même flair. Il n'y a point de myrrhe, ni d'encens, ni de cinnamone, ni de musc, ni d'ambre, ni d'œillet, ni de rose, qui soit agréable à l'odorat d'un aigle, comme est un corps mort. C'est sa venaison. Mais pour nous, un corps mort, surtout un corps humain, est un spectacle de honte et de calamité. Qui peut voir une charogne, surtout de notre espèce, sans frémir en soi-même, et sans que la puanteur qu'elle rend nous chasse un continent au loin? Ainsi, la doctrine de Jésus-Christ crucifié fait mal au cœur de l'homme animal, et lui est de mauvaise odeur, odeur de mort à mort pour ceux qui périssent, et surtout aux Juifs, à ceux de sa propre nation. Mais le vrai chrétien trouve cette même doctrine de la croix plus odoriférante que toutes les cassolettes du monde. Il la sent avec délectation, il s'en repaît et s'en remplit le cœur de viande et de joie, odeur de vie à vie pour ceux qui sont sauvés. C'est une façon de parler remarquable de l'Écriture qui dit de ceux qui se meurent qu'ils s'assemblent avec leur Père. Ils s'assemblent avec leur Père, disent les Hébreux, mais ils s'assemblent avec le Père au style des chrétiens et avec le Fils de Dieu, avec leur corps mort. « Je m'en vais, disait-il, à mon Père et à votre Père, à mon Dieu et à votre Dieu. » Vous avez plusieurs assemblées en ce lieu. C'est un avantage pour votre ville et pour votre église. Mais ces assemblées ne font que passer, et par leur séparation, comme par un dégel, elles fondent et disparaissent. Souvenons-nous qu'étant séparés, nous devons, dans la dispersion des corps, être toujours unis au chef. Et vous, peuple fidèle, pensez surtout à l'assemblée dont nous vous parlons. L'assemblée des aigles est une assemblée permanente qui subsiste et qui dure toujours tant que le soleil durera. Puissiez-vous toujours vous assembler en cette maison pour y chanter les louanges de Dieu, ou plutôt vous assembler, là où est le corps mort dans le ciel, pour y chanter les hymnes angéliques et célestes et dignes des vrais enfants de Dieu. Oh, quand viendra ce jour, cet heureux jour attendu de toute la nature, auquel tous les avant-coureurs ayant paru et tous les signes de son avènement étant accomplis, viendra pour assembler tous ses élus des quatre vents, de toutes langues, tribus et nations, en la grande et générale assemblée vraiment œcuménique des vivants et des morts, et nous ravir tous avec lui dans l'assemblée heureuse des premiers-nés, dont les noms sont écrits dans les cieux. Là seront les esprits des justes sanctifiés, là sera le corps mort, là seront les aigles, et nous y serons. Là seront les patriarches et les prophètes, les apôtres et les martyrs. Là-haut, nous lui donnerons louange et gloire et serons abreuvés au fleuve de ses éternelles délices au siècle des siècles. Amen.